manquer.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Et avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Vous êtes sur Radio Courtoisie, amis du lundi, hardi. Et avant toute chose, je voudrais dédier cette émission, cette belle émission, à nos confrères du quotidien Libération, qui nous ont gentiment donné l'idée du grand thème de cette édition spéciale de Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, en partenariat avec L'Incorrect, avec Boulevard Voltaire et avec Valeurs Actuelles. Et au menu ce soir, donc, la contre-enquête menée par ces médias, ainsi que l'OGIM, l'Observatoire du journalisme, sur les organisations de gauche et d'extrême-gauche qui abusent parfois de la défiscalisation qui est accordée aux associations d'intérêt général. Alors, vous le savez, vous le savez peut-être, j'espère, en tout cas, cette contre-enquête est une riposte aux attaques de Libération contre les associations de droite qui délivrent des reçus fiscaux pour les dons dont ils bénéficient. Et comme le disaient les journalistes Maxime Massé et Pierre Plotus, c'est un dispositif légal, mais ce n'est pas, selon eux, quelque chose de normal, puisque, évidemment, si ça bénéficie à des associations de droite, ça n'est pas normal, ça doit bénéficier à des associations de gauche. Et donc, ils ont ensuite, après cet article, interpellé le député LFiste Éric Coquerel, qui est aussi le président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, et celui-ci donc a dit qu'il envisageait de faire évoluer la législation sur les assos d'intérêt général, pour évidemment pour tuer les assos de droite, nous en l'occurrence. Et donc voilà, donc on s'est dit qu'une riposte s'imposait. Et pendant 3 mois, donc nous avons épluché 200 associations de gauche et nous en avons retenu 55 qui potentiellement abusent consciemment ou non, en faisant des erreurs ou pas. Du dispositif fiscal donc, lié aux associations d'intérêt général. Et à la première place, donc, nous nous sommes interrogés sur la gestion de l'Institut La Boétie, qui est le laboratoire d'idées de la France Insoumise, et qui pourrait, je dis bien pourrait, je ne dis pas qu'il l'est, mais en tout cas ça nous pose beaucoup de questions, qui pourrait être dans l'irrégularité, et qui pourrait, de fait, abuser de son statut de fonds de dotation. Et si ça a été avéré, évidemment, ça aurait des conséquences importantes pour le parti de Jean-Luc Mélenchon à l'approche de la présidentielle. Alors, on leur a envoyé des questions auxquelles ils n'avaient pas répondu jusqu'à tout récemment. Et là, quelques minutes avant l'émission, nous avons reçu leurs réponses. Donc, nous vous les lirons en exclusivité. Mais ça nous pose quand même la question, est-ce que le laboratoire d'idées de LFI défiscalise de l'argent public au profit d'un parti politique au lieu de le faire dans l'intérêt général. Voilà, c'est une nuance importante. Nous n'avons pas de réponse, mais nous poserons cette question à nos experts dans un instant, journalistes et avocats. Nous parlerons aussi de certaines associations LGBT comme Fier et Queer, pardon, dont on parlait la semaine dernière pour leur manière un peu écœurante, et même pas un peu, leur manière écœurante, disons-le, de plaisanter avec la pédophilie. Nous parlerons aussi de médias associatifs écologiques comme Reporters, qui ont parfois une gestion, là aussi, qu'on pourrait juger un peu excessivement familiale, et puis bah, de tout un tas d'autres gauchistes en goguette. Voilà, donc nous parlerons de tous ces gens. Rendez-vous de la réinformation ensuite. Hier, donc, avait lieu la fête de la musique, sous haute surveillance policière, et le ministre, parce que c'est pas le mien, le ministre de l'Intérieur, donc Laurent Nunez, s'est félicité en disant « la situation sur l'ensemble du territoire a été maîtrisée et aucun débordement majeur n'a été recensé. » Alors, il ne doit pas parler de la même fête de la musique que nous, puisque ce matin, on a retrouvé plusieurs quartiers de Paris qui étaient réduits à l'état de déchetterie. On a vu des dizaines de voitures brûlées ou saccagées, des milliers de passants agressés ou effrayés par des casseurs ou par des gens un peu étranges qui s'amusaient à embêter le voisinage. Et il y a même un bilan qui parle quand même plusieurs centaines d'arrestations, donc c'est quand même pas absolument anodin pour une situation parfaitement maîtrisée. Nous parlerons aussi de la bonne nouvelle du jour, qui est la démission du Premier ministre anglais Keir Starmer. Alors c'est celui, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait couvert l'affaire des grooming gangs, qui avait mis un genou à terre au moment de Black Lives Matter, mais qui, en revanche, avait totalement relativisé la mort du jeune Henri Novak, il y a quelques jours, hein, en expliquant qu'en gros, il ne fallait pas instrumentaliser politiquement l'assassinat de ce jeune homme blanc par un assassin d'origine sikh. Et le même Keir Starmer donc, avait protégé pardon, toutes les dérives de l'immigration de masse en punissant régulièrement la révolte des Anglais de souche. Voilà, donc il a quitté le pouvoir aujourd'hui, c'est bien fait. Et puis nous terminerons en évoquant le scandale de la condamnation de Thaïs d'Escuffon, donc il y a la jeune militante identitaire qui a été condamnée à 1000 euros d'amende et qui échappe heureusement quand même aux 4 mois de prison qui ont été demandés par le procureur parce qu'elle avait dit qu'en France, je cite, les immigrés noirs et arabes étaient les principaux dangers pour les femmes. Alors, elle faisait notamment allusion, de manière un peu énervée sans doute, à l'agression sexuelle qu'elle avait subie elle-même de la part d'un immigré maghrébin. Elle est venue la raconter en détail au micro de Radio Courtoisie. Et voilà, on peut donc se demander, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle dit, mais au vu de la légèreté des peines qui frappent des délinquants ou des criminels avérés dans notre pays, ben, on peut justement se demander si au vu de la peine qu'elle, elle reçoit, on peut encore faire confiance à la justice de notre pays. Alors c'est la grave question qu'on vous posera. Et pour aborder tous ces sujets, voilà, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi les limiers de la réinformation, avec Rodolphe Carte, journaliste, Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect, Jean-Charles Soulier, collaborateur de Logim, et Julie Solveig, journaliste à Radio Courtoisie. Nous attendons également Pierre Gentillet, Pierre Gentillet est là, Maître Pierre Gentillet, donc avocat, et Xavier Van Leerd, journaliste. Alors, chers auditeurs, vous savez, vous pouvez nous écrire vos messages, poser vos questions. Il vous suffit pour ça de téléphoner au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou d'envoyer un courriel à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Alors, on commence tout de suite avec notre grande enquête donc, sur ces associations de gauche qui potentiellement abusent d'un dispositif légal et, pour reprendre les mots des journalistes de Libération, qui en disposent donc, de manière légale, mais pour lesquels ce n'est peut-être pas normal, donc légal, mais pas normal. Donc, je récapitule. Le 17 avril, Libération consacrait sa une donc, à Radio Courtoisie et d'autres organisations comme Némésis, comme l'Institut Iliade, comme Academia Christiana. Et le quotidien donc, des islamo-gauchistes à cheveux bleus s'indignait que des associations de droite bénéficient du statut d'intérêt général. Et Éric Coquerel, dans la foulée, donc, s'emparait de l'affaire et proposait l'ouverture d'une mission d'inspection qu'il avait d'ailleurs fait monter jusqu'au gouvernement Le Cornu, qui s'est empressé de, apparemment d'y donner suite. Voilà, donc on attend. Et en attendant, ben on s'est dit, on ne va pas rester sans rien faire et on va leur montrer que ça peut être intéressant pour eux de commencer à balayer devant leur porte avant de s'intéresser aux associations de droite. Alors, est-ce que Pierre Gentillet, vous nous entendez ? Pierre Gentillet ? Non, il ne nous entend pas. Alors, dans ce cas-là, ce que je vous propose peut-être, Arthur de Vatrigan.
Oui, moi je vous entends très bien.
Merci Arthur.
Forcément, je suis là.
Avant d'avoir Pierre Gentillet pour nous donner un point de vue, un éclairage peut-être juridique et technique sur le sujet, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu les tenants et aboutissants de cette association, de cette enquête, pardon, est-ce que vous avez fait, vous, avec l'Incorrect ?
Bah, il faut peut-être rappeler à nos auditeurs que le système des reçus fiscaux, c'est 3,5 milliards d'euros de dépenses fiscales par an. C'est-à-dire, bon, les auditeurs le savent parce qu'ils font des dons à Radio Courtoisie. Si vous donnez 100 euros à une association, l'État vous rembourse 66 euros, donc vous sortez de votre poche que 34 euros, et les 66 euros, donc c'est la collectivité qui paye. Donc c'est une dépense fiscale, c'est-à-dire que c'est l'État qui renonce à une recette, c'est à peu près équivalent à s'il faisait un chèque, en fait, en réalité. Et donc ce mécanisme existe pour financer l'intérêt général, et pas l'intérêt de quelques-uns ou l'intérêt de certaines idéologies. Donc la question qu'on peut se poser, c'est, étant donné que Libération a décidé d'ouvrir la boîte, bah nous on a décidé de la vider, c'est très bien, on va pouvoir faire le tri, regarder en effet ce qui relève ou pas de l'intérêt général, ce qui relève de l'utilité publique, et puis aussi si ceux qui sont d'intérêt général bah, respectent tout le cahier des charges et tout ce qu'ils doivent faire juridiquement et légalement. Étant donné qu'on connaît le flair de pointer de la gauche ou renifler l'argent public même dans le plus petit recoin de la planète. On a déjà qui sont gavés de subventions directes, on sait qu'ils ne mégotent pas non plus sur des dons défiscalisés. Et donc, on a décidé avec Radio Courtoisie, Logim, Bouvard Voltaire, de plonger dans cette boîte, de redépatouiller tout ça. Et en effet, vous l'avez dit, sur la plusieurs centaines d'associations étudiées, il y en a plus d'une cinquantaine qui nous paraissent plus que douteuses, soit dans l'intérêt général qu'elles affirment, soit dans leur dans les clous qu'elles de leur gestion. Elles ne traversent pas forcément toujours comme il faut. Et donc, en effet, on a trouvé pas mal de choses qui sont intéressantes. Et puis, au-delà de ça, ça relève quand même la question de, étant donné que c'est de l'argent de la collectivité, en tout cas une perte de recettes ou un manque de recettes de la collectivité, c'est pas inintéressant à cette époque où on se passe son temps à se demander où est-ce que part l'argent et comment ça se fait que tout nous coûte toujours plus cher et que le pays ressemble de plus en plus un pays sous-développé, comment sont gérés tout cela? Et puis de se poser la question de quel intérêt, est-ce que c'est bon pour le bien commun, est-ce que c'est bon pour l'intérêt général, et qui en profite le plus? Et à notre grande surprise et à votre grande surprise, chers auditeurs, vous allez voir que la gauche est encore très forte, et a commencé par, évidemment, campagne présidentielle oblige, la politique étant donné que le centre de la gauche est devenu la France insoumise aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon tient en laisse tous les autres partis de gauche, on l'a encore vu ce week-end et les jours d'avant. Intéressant de voir qu'est-ce qui gravite autour de la France insoumise, et donc ça pour le coup c'est tout l'honneur revient à Radio Courtoisie d'avoir mené cette enquête sur cet institut de la Boétie qui a déjà fait parler d'elle, et pas forcément en bon terme, et pas forcément en bien, avec des sorties plus que douteuses, plus que pénalement répréhensibles également. Et donc là, pour le coup, je vous laisse évidemment nous raconter qu'est-ce que c'est que cet institut, à quoi il sert, et surtout, qu'est-ce qu'on y trouve dedans.
Et est-ce qu'on peut en trouver? Alors, je crois que Pierre Gentil nous entend maintenant. Pierre Gentil, vous êtes avec nous?
Oui, excusez-moi.
Ah, super, je vous en prie.
Je suis avec vous, alors, je vous ai entendu.
Avant d'attaquer, si je puis dire, je précise quand même, merci déjà à Arthur de Vatrigan pour ces mots gentils sur Radio Courtoisie, mais c'est intéressant de signaler que pour la première fois, peut-être des médias qui ne sont pas de gauche ont réussi à travailler ensemble, ont eu cette idée de le faire, ça pouvait paraître évident, mais souvent les médias ont leurs petites divergences, et là on a réussi à fédérer des médias amis, donc personnellement je m'en réjouis, et là encore d'ailleurs ça nous évoque quelque chose que font très bien nos amis de gauche, et j'avais découvert notamment l'existence de ce qu'ils appellent les pizza bolo. Je ne sais pas si vous savez ce que
non.
C'est. Les pizza bolo, apparemment, sont des journalistes de gauche qui se réunissent régulièrement, une fois par mois, autour d'une pizza bolognaise. Et ils discutent pour savoir comment ils vont pouvoir nuire, ce mois-ci ou les suivants, aux intérêts de Vincent Bolloré. Alors, Vincent Bolloré qui n'a rien à voir avec Radio Courtoisie, si ce n'est que, je pense, il n'a rien contre nous et que son oncle venait souvent. Mais, et ce faisant, quand ils appellent ça les pizza bolo, c'est aussi pour nuire à Pierre-Édouard Stérin, c'est pour nuire ensuite à tout l'écosystème, à tout ce qui est de droite, ou en tout cas à tout ce qui n'est pas de gauche, voilà. Et je me suis dit, c'est quand même une super idée, et ça nous fait passer un bon moment aussi. Alors nous, on ne mange pas de pizza, mais on boit des coups, on se rencontre, et on rigole, et puis on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour dénoncer un petit peu ce que nos adversaires peuvent faire de mal. Voilà, alors Pierre Gentillet, je me tourne vers vous, donc vous êtes avocat, vous êtes spécialiste du droit des associations, vous êtes aussi un expert des fonds de dotation. Et là, c'est tout de même une enquête qui est un peu technique, et je vous ai demandé si vous étiez d'accord pour venir quand même donner un éclairage aux auditeurs de Radio Courtoisie qui ne connaissent pas forcément le droit des associations. Et donc d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui permet à une association de se réclamer de l'intérêt général?
Alors, merci pour votre question. Effectivement, j'ai l'habitude d'intervenir sur des sujets politiques. Ce sujet sera, on va dire, autant technique que juridique, mais je crois que Arthur Vatrigan l'a tout à fait bien expliqué avant. C'est un sujet financier très important. Certaines associations peuvent émettre des reçus fiscaux, pour les dons qui leur sont consentis. Je dis bien certaines associations. Il y a un catalogue d'associations, vous avez des associations d'aide à la presse, vous avez des associations reconnues d'utilité publique, il y a une liste assez fournie, et il y a aussi une catégorie un peu à part, ou certains diraient catégorie balai, mais qui n'en est pas une, qu'on appelle les associations d'intérêt général, à ne pas confondre avec d'intérêt public, puisque l'intérêt public suppose une reconnaissance par décret. Les associations d'intérêt général sont des associations qui peuvent, sans autorisation préalable, contrairement à ce que l'on pourrait croire, émettre des reçus fiscaux pour les dons reçus. Cela ouvre droit, cela a été dit, à une réduction d'impôt non négligeable de 66% d'impôt sur le revenu par les particuliers, mais aussi, quand les dons sont faits par les entreprises, de 60% de réduction d'impôt sur les sociétés. Ces associations-là, elles doivent, pour émettre ces reçus fiscaux, répondre à des conditions qui sont fixées par le droit fiscal, et notamment, vous l'avez dit, être d'intérêt général. Mais l'intérêt général, qui ne se confond pas en droit fiscal avec le bien commun, qui est une notion un peu plus empreinte de catholicité, l'intérêt général, c'est l'administration fiscale qui le définit. Et là, si je commence à me lancer dans le catalogue de ce qu'est l'intérêt général pour l'administration fiscale, ce serait un peu long. Mais disons qu'il s'agit de toutes les associations qui répondent aux articles assez connus dans la matière, mais inconnus pour le grand public, que sont les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts, c'est-à-dire des associations à caractère culturel, à caractère sportif, à caractère scientifique, à caractère éducatif, etc. Vous avez une dizaine de critères. Si ces associations répondent à ces critères, qui sont fixés aussi, enfin, commentés par l'administration fiscale, et que leur gestion est désintéressée, que leur activité est non lucrative, qu'il y a un certain nombre de conditions, alors ces associations, ces entités associatives peuvent émettre des reçus fiscaux pour les dons reçus. Et effectivement, l'avantage fiscal est considérable. Vous savez, un rapport parlementaire d'il y a un peu plus d'une dizaine d'années avait enquêté sur, entre autres, sur ce fonctionnement, sur le fonctionnement du régime du mécénat. Et il me semble que dans ce rapport, je dis bien il me semble, parce que tout ça c'est de mémoire, qu'entre des associations qui émettent des reçus fiscaux et des associations qui n'émettent pas de reçus fiscaux pour leur collecte, en particulier quand on fait, vous le savez bien, hein, Radio Courtoisie le fait, les collectes de fin d'année notamment, le rapport, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il était au moins de 1 à 3 entre une association qui n'émet pas de reçus fiscal, enfin reçus fiscaux, c'est assez du pluriel, et une association qui en émet. Donc l'enjeu est tout à fait considérable. C'est un enjeu technique, mais c'est aussi un enjeu politique et juridique. Et bien évidemment, il y a un certain nombre d'associations qui abusent de ce mécanisme, puisque les moyens de contrôle de l'État, en réalité, sont assez limités pour la masse d'associations, et pas que, il y a aussi des fonds de dotation et d'autres entités qui usent de ce mécanisme et qui en abusent. Malheureusement, les moyens de contrôle de l'administration fiscale sont assez limités. Et je ne sais pas si vous y avez fait référence, Pierre-Alexandre, dans votre propos liminaire, parce que j'ai été un peu coupé. Mais manifestement, l'État a l'air de soucier très particulièrement d'un camp politique en France, de certaines associations en France, suite à une enquête de Libération qui avait bien notamment enquêté sur Radio Courtoisie, qui avait enquêté sur Némésis, qui avait enquêté sur, je crois, aussi l'Institut Iliad, bref, un certain nombre d'entités associatives plutôt marquées à droite. Et manifestement, c'était absolument intolérable que ces associations, ces entités, émettent des reçus fiscaux alors même qu'elles étaient, qu'elles sont dans leurs droits.
Absolument. Bien, alors ça, oui, on l'a dit, effectivement.
Je crois comprendre que cette enquête, pour se terminer, lève le voile sur ce que font les associations de gauche et d'extrême gauche, et aussi, et je pense surtout, le fait qu'elles ne sont pas tout à fait dans les clous. Et l'amende est très importante. Vous savez, c'est Civitas qui a été condamné lourdement et qui a, je crois on peut le dire, coulé financièrement.
Alors Civitas est une association catholique traditionnaliste qui a été
dissoute en plus juridiquement après, mais avant même sa dissolution administrative, un contrôle de l'administration fiscale avait établi à l'impossibilité pour elle d'émettre des reçus fiscaux. Et donc elle a dû payer une amende qui l'a coulée, puisque aujourd'hui, ça a changé, mais aujourd'hui l'amende elle est considérable, puisque si vous émettez des reçus fiscaux en tant qu'association, alors que vous n'en avez pas le droit, l'amende est équivalente au montant pour l'association de la réduction d'impôt accordée. Donc c'est tout à fait considérable. Et vous multipliez ça, bien sûr, par tous les donateurs. Donc c'est un enjeu financier et c'est aussi une épée de Damoclès fiscale importante. J'ai été un peu long et peut-être un peu technique, mais je pense que c'est vraiment le préalable pour cette discussion.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques critères donc, de ce qu'est l'intérêt général et de ce que n'est pas l'intérêt général? Par exemple, on va parler de notre propre association. Radio Courtoisie est une association donc d'intérêt général. qui essaye de remplir, et qui j'espère y parvient, l'ensemble des critères nécessaires, ou en tout cas une partie de ces critères nécessaires, comme par exemple contribuer à la diversité d'opinions. D'abord en soutenant donc toutes les droites et tous les talents.
Oui. Si je peux vous couper un instant, Alexandre, c'est entre guillemets, c'est pas le, peut-être pas l'exemple, parce que Radio Courtoisie est une association qui à la fois peut être considérée d'intérêt général, mais qui aussi est une association qui soutient un véhicule de presse, Radio Courtoisie. Oui. En l'occurrence, les structures de presse associatives font l'objet de...
Alors, on ne vous entend plus, Pierre Gentillet. Donc je vais...
Encore un coup de la canicule.
Encore un... Exactement. Oui, vous... ou des gauchistes. on va attendre peut-être, j'espère qu'il va pouvoir revenir avec nous en ligne, mais voilà, je poursuis donc. La radio donc, défend toutes les droites, tous les talents, donc ça veut dire aussi que, un, on ne défend pas une seule droite, c'était ça que je voulais dire, on ne défend pas un parti politique, mais plutôt une tendance qui n'a pas forcément la parole partout, hein. On l'a vu avec l'enquête de l'Incorrect sur le service public, et qui défend également tous les talents, ce qui est une manière de dire qu'on ne se contente pas d'inviter des gens de droite, mais qu'en fait nous avons aussi une dimension culturelle, et par-dessus le marché, nous défendons la francophonie étant une cause qui touche évidemment toutes les personnes qui ont la langue française en partage, on pense à Mathieu Bock-Côté ou à tant d'autres, voilà, donc c'est quelque chose de très très large en fait, qui peut servir beaucoup d'intérêt. Nous revoici avec Pierre. Est-ce que, Pierre,
excusez-moi.
Non, je vous en prie, c'est la canicule.
Mon téléphone était en surchauffe, donc vous voyez, la canicule nous touche tous, être de chair comme téléphone. Donc du coup, ce que je vous disais, pour reprendre le fil de la discussion, c'est que voilà, il y a aussi des organismes particuliers à côté de ce tronc commun qui est l'intérêt général, que sont ici, par exemple, les associations qui soutiennent des activités de presse. Mais disons que l'intérêt général, c'est quatre choses. Là, on est dans le technique. C'est un, avoir des activités dites d'intérêt général, c'est-à-dire culturelles, scientifiques, sportives, éducatives, etc. Vous avez une dizaine de critères. Que l'activité lucrative soit minoritaire, que la gestion soit désintéressée et que l'association s'adresse à un cercle large de personnes. Ces critères, dit comme ça, ils peuvent ensuite se déployer parce que l'administration fiscale les commente. Mais en somme, ce sont des associations qui ne font pas de bénéfices, en tout cas qui ne font pas de bénéfices et qui ne les distribuent pas, qui n'ont pas d'activité lucrative prépondérante, pour être très précis, qui sont ouvertes au plus grand nombre. Et sur la question politique, la distinction, et je pense que c'est ça le point important, puisque vous allez parler de structure politique de gauche, c'est qu'une association qui, sous couvert d'intérêt général, se livre en réalité à des activités électorales ou politiques, mais pas au sens purement métapolitique, mais au sens, par exemple, de soutien d'un véhicule politique, d'un parti politique, eh bien, cette structure-là n'est pas dans les clous, puisqu'elle ne correspond pas à un des critères que je vous ai énoncés. Les associations d'intérêt général, ce ne sont pas des associations principalement politiques. Elles peuvent être principalement culturelles, principalement éducatives. Vous voyez, par exemple, une université d'éducation populaire, ce serait tout à fait possible, quand bien même serait-elle plutôt orientée à gauche. Par contre, l'université d'été de la France Insoumise, ça, c'est pas possible.
Donc, par exemple, pour parler clairement pour les auditeurs de Radio Courtoisie, l'université populaire de Michel Onfray, c'est potentiellement d'intérêt général, parce que ça s'adresse à tout le monde. Je ne sais même pas s'il demande des dons, d'ailleurs. Mais en tout cas, il pourrait...
sous réserve que ce soit une structure associative, oui, qu'elle respecte les autres conditions, une activité non lucrative prépondérante, etc. Mmh. Oui, il est possible, effectivement, dans la mesure où on le délivre un savoir, dans la mesure où il y a une activité de formation, là, oui, on peut, je dis bien, je mets des guillemets, parce qu'à chaque fois, je fais un point de précision, pour vérifier qu'on a d'intérêt général, soit c'est la pire solution, on va interroger l'administration fiscale parce qu'elle a toujours une position restrictive, soit effectivement on va avoir un professionnel du droit, en l'occurrence c'est ce que je fais, pour vérifier si on répond bien aux critères du droit fiscal. Ici effectivement pour l'université populaire, il y aurait effectivement une base. Oui, vous voyez donc, l'activité politique n'est pas nécessairement absente, c'est simplement la question de savoir qu'est-ce qui est principal et qu'est-ce qui est incident. Ce qui doit être incident, c'est le politique. Ce qui doit être principal, c'est le caractère d'intérêt général. En l'occurrence, ça peut être le caractère culturel, scientifique, sportif, je les ai cités un petit peu comme ça à la volée.
Et alors, sachant donc qu'ensuite, il y a ce qui n'est pas d'intérêt général. Donc, vous disiez, par exemple, oui, pour une université culturelle, donc on a pris l'exemple de Michel Onfray, encore une fois, très gratuitement, je ne sais même pas s'il a déjà fait la moindre demande ou ni quel est son modèle économique, mais Ensuite, il y a ce qui n'est pas, et là, par exemple, l'université d'été de LFI ou du Parti Socialiste ou du Rassemblement National, d'ailleurs, ça ne serait pas possible. Parce que là, on parle d'un parti politique.
Pardonnez-moi Pierre-Alexandre, ou même, soyons plus simples, hein, des associations qui en fait sont des associations simples. Vous voyez, par exemple, une association d'anciens élèves, ce n'est pas une association d'intérêt général.
Oui.
J'allais dire une association pour jouer aux boules. À la rigueur, c'est peut-être une association presque d'intérêt général, puisqu'il y a un caractère sportif. Mais des associations qui n'entrent pas dans le schéma de l'intérêt général au sens des activités sportives, culturelles, scientifiques, environnementales, etc. Il y a des associations qui sont juste des clubs d'amitié ou des associations, vous voyez, par exemple, qui font du lobbying. Les associations qui font du lobbying ne sont pas des associations d'intérêt général. Voilà.
Oui, puisque par définition, elles défendent des intérêts particuliers.
Ben voilà, voilà, par exemple.
Entendu.
Donc, non, l'intérêt général, ça, effectivement, ça suppose de bien répondre au canon du droit fiscal français, aux critères qui sont posés par l'administration fiscale. Ce n'est pas simple, c'est la raison pour laquelle on va souvent voir effectivement un avocat, mais c'est important effectivement en amont de bien savoir qu'on est d'intérêt général, parce que sinon effectivement l'amende peut être importante.
Alors là justement, nous, dans l'enquête qui nous concerne, nous avons cherché donc d'abord des associations qui par définition avaient recours aux dons défiscalisables. Alors on précise que la gauche a plus souvent l'habitude de se faire financer par des subventions publiques, c'est-à-dire des collectivités qui donnent une somme tirée de l'impôt des Français. Alors, elle bénéficie aussi du reçu fiscal, mais qui est plus, pour le coup, une méthode de droite qui est plus libérale, au fond, puisque c'est permettre à un donateur, monsieur tout le monde, moi, vous, n'importe qui, d'affecter une partie de ses impôts à une cause qui lui est chère. C'est-à-dire que la déduction fiscale permet, comme nous le dit d'ailleurs un auditeur, il nous dit « L'État ne fait rien pour ses dons, ce sont les donateurs qui font l'effort, effectivement. L'État se prive seulement de ressources en acceptant la déduction. » c'est tout à fait cela. Et nous avons donc cherché des associations qui répondaient à ce critère. Nous avons ensuite vérifié pour chaque association la publication des comptes et la validation par un commissaire aux comptes. Nous avons cherché les comptes de résultats pour savoir un peu quelle était la part des dons, la part des subventions, la part du mécénat. Nous avons évidemment vérifié la transparence ou l'opacité de ces associations. Alors, je me tourne vers Julie Solveig, avec qui on a lancé cette enquête pour Radio Courtoisie. On finira avec l'Institut La Boétie, puisque ça sera un peu le cas un peu modèle. Alors, Julie Solveig, comment est-ce que vous avez vous-même travaillé? Sur quoi je crois que vous avez surtout ciblé les sœurs de la perpétuelle indulgence.
Absolument.
Qui est un ordre religieux un peu particulier.
Oui, très particulier. En fait, on a fait plusieurs associations. Vous parliez de Fier and Queer tout à l'heure. On y consacrera un long sujet jeudi matin dans la matinale. Donc voilà, pour le teasing. Et puis, en fait, on a fait une liste...
Je m'ai tout fait.
Je cherche mes notes en même temps. On a une liste de plusieurs associations, dont les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Alors, je pense que beaucoup d'auditeurs n'en ont jamais entendu parler, parce que nous non plus, on peut dire qu'on est tombé dessus un petit peu par hasard. C'est une petite association, pardon, qui touche peu de dons.
Pas une congrégation, hein.
Non.
Est-ce que vous pouvez nous les présenter quand même rapidement?
Alors oui, je cherchais, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Donc ce sont des drag queens, des queers qui se déguisent en nonnes.
Des queers. Alors, le queer en anglais, c'est un anormal. Ce sont eux qui revendiquent le mot. Hein. C'est pas moi qui le dis. Je n'ai pas de jugement à donner. Mais queer en anglais signifie anormal, bizarre, étonnant. Et ça traduit des gens qui ont des comportements atypiques, on va dire, sexuellement atypiques. C'est pas méchant, sexuellement atypiques.
Ils s'en réclament.
Oui, en plus, ils le revendiquent fièrement. Et donc, ils ont cette particularité de s'habiller en bonne sœur.
C'est ça.
Et d'accompagner la cornette et le vêtement religieux de porte-jartel ou de cuir clouté.
C'est ça, de latex, oui. De paillettes, beaucoup de maquillage, enfin... C'était tout un voyage d'aller sur leur site internet. Et donc, officiellement, ils se présentent comme des sœurs qui font vœu d'aider leur communauté, la société entière, lutter contre les exclusions, de prôner la tolérance, la non-violence, etc. etc., etc. Sauf que dans les faits, il y a deux choses concernant cette association. Déjà, ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est une petite association. Et pourquoi c'est intéressant? C'est qu'on peut imaginer qu'il y a beaucoup de petites associations qui, si vous voulez, tout cumuler, ça fait quand même beaucoup d'argent perdu pour l'État, en fait. Et puis, concernant donc, les sœurs de la perpétuelle indulgence, il y a un souci, disons, sur le bien fondé qu'elles reçoivent, comment dire, d'avoir la défiscalisation. Et Pierre Gentillet en parlera sûrement plus tard, mais sur le rescrit fiscal d'un point de vue juridique, apparemment, c'est absolument n'importe quoi. Donc, les sœurs, en fait, derrière leur, comment dirais-je, leur discours de tolérance, de bienveillance, dans les faits, c'est vraiment une association, on peut le dire, très anti-catho. C'est-à-dire qu'elles se moquent vraiment des catholiques. Il y a un langage religieux qui est complètement détourné. Elles se moquent du vêtement, vous le disiez, de la messe. Elles sont extrêmement vulgaires, pour pas dire obscènes. Donc très discriminante vis-à-vis des catholiques. Elles ont la fête de la Saint, de latex, des choses comme ça. Et par ailleurs, en plus, elles troublent l'ordre public. Voilà, elles font des bénédictions de distributeurs de préservatifs dans la rue. Elles font des happenings et ça.
Des événements, oui, des manifestations.
Voilà, des manifestations.
Surprise. Voilà.
Exactement. Et donc il y a un trouble à l'ordre public qui, si je ne m'abuse, n'est pas compatible justement avec le fait de pouvoir défiscaliser.
C'est surtout que, si j'ai bien compris, le rescrit fiscal, elles l'ont reçu donc parce qu'elles étaient supposées faire de la prévention
contre le sida,
contre les maladies sexuellement transmissibles.
C'est ça, exactement.
Et donc là, c'est pas tellement conforme à ce qu'elles font finalement.
Bah en fait, quand vous allez sur leur site, leur page Instagram, vous voyez que des événements en fait, les voir danser à la marche des fiertés, enfin donc on voit pas trop ça. Je précise que le rescrit, il est très récent. Il date de 2025, donc on peut imaginer que jusqu'ici, elle ne l'avait pas. Et autre chose, ce qui est un peu étonnant, c'est quand on regarde les commentaires sur Internet, on tombe sur des commentaires, notamment d'une personne qui explique qu'en plus, elles sont homophobes. Donc on est loin de...
Ah bon?
Oui, oui, complètement.
Alors ça, c'est quand même...
C'est le pompon.
Atypique. Bon. Justement, comment ça se fait?
Ah bah ça, j'en sais rien, je suis pas allée les voir, En gros, aucune case n'est réellement cochée. Et puis, il y a la dimension donc, du rescrit fiscal. Pardon. Je laisse Pierre Gentillet en parler parce qu'il saura mieux le faire que moi.
Pierre Gentillet, alors, est-ce qu'on vous a présenté donc, un peu le résultat de notre enquête sur les sœurs de la perpétuelle indulgence et la mention de leur rescrit fiscal vous a un peu indigné, j'ai eu l'impression.
Alors, effectivement, j'ai lu le rescrit. Donc, je rappelle qu'effectivement, le rescrit, c'est le document de l'administration fiscale. Vous pouvez interroger, vous, toute association, l'administration fiscale pour savoir si vous avez la capacité d'émettre des reçus fiscaux et donc ici, d'être d'intérêt général. Le rescrit fiscal que j'ai lu, les concernant, donc rappelez-moi le nom, c'est les Sœurs,
les Sœurs de la perpétuelle indulgence.
Voilà, qui est une association et qui n'est pas du tout une congrégation religieuse, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, et qui est clairement d'extrême gauche. J'ai lu effectivement ce rescrit. Je suis un peu tombé de ma chaise. Je dois vous le confesser. Je ne sais pas si vous dire ça pour ça.
C'est le moment ou jamais. Ouais.
Parce que, écoutez, j'ai lu des rescrits fiscaux. Je pense que j'en ai lu plusieurs centaines. Je n'ai jamais lu un rescrit fiscal aussi indulgent. C'est-à-dire que l'administration fiscale considère les reçus fiscaux comme une niche fiscale. C'est-à-dire qu'elle a une position très restrictive. Et sans entrer dans le détail du rescrit que j'ai lu, je préfère, pour être simple pour les auditeurs, je n'ai jamais lu un rescrit aussi complaisant. C'est même troublant. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que le simple fait d'avoir une activité ici, comme elles ont, c'est-à-dire de prévention, etc., ou même de, je ne sais plus quel est le terme exact, mais d'altruisme, ça correspond à un critère dit philanthropique, qui c'est vrai est mentionné par l'administration fiscale, mais qui n'est quasiment jamais utilisé. C'est-à-dire qu'en un mot, je vais éviter d'être technique, l'administration fiscale ici, moi quand j'ai lu ce rescrit, j'avais l'impression que ce n'était pas l'administration fiscale qui avait écrit, tellement c'était indulgent. Donc ce rescrit pour moi est incompréhensible. Incompréhensible, voilà.
Alors comment expliquer ça?
Il y a peut-être d'autres
explications. Une explication.
J'ose pas les avancer, mais ça serait grave.
Imaginons que vous ayez l'esprit tordu, malfaisant. Complaisance, vous dites.
Est-ce que ce n'est pas un rescrit de complaisance? Je me permets de poser la question, parce qu'encore une fois, quand on regarde les activités de cette association, en tout cas sur son site internet, on est en droit de s'interroger. En tout cas, moi, je peux vous le dire, si demain, cette structure venait me voir, si tant est que j'accepte, j'ai quand même la possibilité de savoir avec qui je dois dire avec qui je travaille, de choisir avec qui je travaille. Je pense que moi, en tout cas, en tant qu'avocat, jamais je ne produirai une consultation au vu de ce que j'ai lu dans le rescrit qui donnerait positivement le droit à une association comme celle-ci d'émettre des reçus fiscaux. Ce n'est pas possible. Donc, mais c'est vrai, avec ce rescrit fiscal qui est un petit peu le Graal, elles sont protégées. C'est-à-dire que si demain il y a un contrôle de l'administration fiscale qui établit qu'elles ne sont pas d'intérêt général, le rescrit les couvrira d'une amende. Donc, vous voyez, c'est vraiment très important comme enjeu ici.
Oui, effectivement, oui. Alors, on va passer à une autre, à d'autres structures. Là, on va se concentrer un peu plus sur des médias associatifs. Donc, Jean-Charles Soulier, donc vous travaillez pour l'OGIM, l'Observatoire du journalisme.
Oui, tout à fait.
Et vous avez travaillé sur deux structures, donc Médiacité, qui est un... et puis un autre...
Le
Fonds pour une presse libre.
Oui,
donc,
c'est
ça. Qui est un fonds de dotation dont Pierre Gentilier pourra nous parler aussi, qu'on appelle les fonds Charlie, je crois bien, qui soutiennent l'indépendance et la diversité de la presse.
Oui, alors qui sont censés soutenir la pluralité de la presse et l'indépendance, mais quand on se penche vraiment sur ce fonds de dotation, donc le fonds de dotation Fonds pour une presse libre a été créé au départ en 2019 pour garantir l'indépendance de Mediapart. Et ensuite, parmi leur mission, leur objectif, ils le disent d'ailleurs dans leur charte, ils s'engagent en faveur de la liberté d'expression, du pluralisme de la presse et de l'indépendance. Or, ils s'engagent en vérité surtout pour la liberté d'expression des médias de gauche ou d'extrême gauche et pour le pluralisme de la presse qui s'arrête à la presse qui correspond à leurs idées.
Donc, en fait, ils ne remplissent pas le critère de la diversité d'opinion.
Non, non.
Ça se...
Pierre Gentilier, oui.
Alors, ça se débat. Je vais essayer d'expliquer. C'est pour ça qu'ici, on peut poser des questions, mais en tout cas, il faut faire attention.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on n'accuse pas, on pose des questions, effectivement.
Non, mais c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, les fonds Charlie, les associations de Charlie, ce sont soit des fonds de dotation, des petites fondations privées, soit des associations, effectivement, qui ont pour but de soutenir la presse. D'accord, de soutenir la presse par le financement d'organismes de presse qui peuvent être d'ailleurs autant des sociétés commerciales que des associations. Il est dit effectivement qu'elles doivent concourir au pluralisme. Mais cette notion de pluralisme, en réalité, alors on n'a pas beaucoup de jurisprudence là-dessus, mais elle est appréciée assez largement. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple, s'il y avait plusieurs associations, Charlie, une qui finance les associations de gauche, une des associations de droite, une des associations de centre-gauche, centre-droit, on pourrait dire que ce n'est pas un problème puisque ça concourt au pluralisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc,
oui.
Le fait qu'une structure Charlie ne finance, ne soutienne que des associations, entre guillemets, du même bord politique, n'est peut-être, je mets des guillemets, n'est peut-être pas un obstacle dès l'instant que ça contribue au pluralisme général. Vous savez, c'était un peu la même problématique qu'on avait à un moment pour CNews. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on devait apprécier le pluralisme ? Est-ce qu'on apprécie le pluralisme sur la chaîne, sur le véhicule, ou au regard de l'ensemble du panorama ? Vous voyez ?
Oui.
Donc, voilà pourquoi je serais plus réservé sur la contravention aux critères de la pluralité.
D'accord. Même si c'est quand même assez ciblé. Est-ce que vous avez d'autres choses sur ce sujet ou sur l'autre association que vous avez évoquée, Jean-Charles Soulier ?
Alors, j'ai un autre aspect, toujours sur le fonds pour la presse libre, puisque le fonds pour la presse libre fait régulièrement des appels aux dons. Ils annonçaient notamment en 2026 qu'ils allaient verser 600 000 euros d'aide aux médias indépendants qu'ils soutiennent, ce qui est une somme assez conséquente, vous en conviendrez. Quand on se penche sur ces fonds, en fait, on remarque que, par exemple, en 2024, seuls 34% des sommes récoltées via ces appels aux dons ont été redistribuées et 55% a été mis en réserve. C'est-à-dire qu'une partie de ces dons qu'ils récoltent, ils les mettent ensuite dans leurs fonds propres, ce qui leur permet ensuite de soutenir le modèle économique de Mediapart en particulier, mais pas des autres médias de gauche qu'ils soutiennent. Après,
c'est-à-dire qu'ils concentrent leur aide sur Mediapart.
Non, non. C'est-à-dire qu'il y a, parmi ces 600 000 euros,
oui.
Il ne verse pas l'intégralité de ces 600 000 euros à d'autres médias indépendants, mais seulement 34%.
D'accord.
Voilà. Après, ce n'est pas illégal, puisque la façon dont il dispose ensuite de ces 600 000 euros d'aide, ça dépend de leur gestion fiscale. Mais voilà, il y a quand même cette ambiguïté où voilà, parmi tous ces dons qu'ils reçoivent, ils n'en reversent qu'une partie seulement aux autres médias indépendants dans leur écosystème.
D'accord, donc c'est quand même assez sectorisé. Arthur de Vatrigan, je crois que vous vouliez...
Je rajoute le nom d'autres associations au bouquet, si vous voulez, j'en ai pas mal. Hein.
Allez-y.
Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur globalement ces associations-là, c'est que y en a qui, on dévoilera quelques-unes qui, clairement, on ne savent pas gérer leurs comptes. Y en a qui oublient de faire des déclarations, il y en a qui oublient de déposer leurs comptes. Mais pour la plupart, elles oublient qu'elles sont d'intérêt général. C'est là où c'est assez intéressant. Alors, je prends trois exemples, et notamment par rapport à ce qu'il dit Maître Gentillet sur quoi se peut s'exposer des associations qui se déclarent d'intérêt général, qui ont émis des reçus fiscaux et qui pourraient se faire condamner comme Civitas à une forte amende, c'est-à-dire rembourser le montant de la défiscalisation. Vous prenez une association comme SOS Racisme, on dévoilera une enquête mercredi dans l'Incorrect. SOS Racisme est écrit en 84. Donc si je suis nul en maths, mais de mémoire, ça doit faire 42 ans. Imaginez par hasard si l'association n'est pas réglo et qu'elle doit rembourser 42 ans des fiscalisations.
Alors c'est 3 ans seulement, je crois.
Ah, 3 ans, c'est triste. Même 3 ans. Bon, et 3 ans, d'autant que les montants d'SOS Racisme, de dons, sont assez importants. Et ce qui est fascinant, comme vous le découvrirez mercredi, c'est que les irrégularités qu'on suppose ou qu'on questionne, ne date pas d'hier, c'est au moins une décennie, voire plus. Donc il y a quand même, on voit qu'il y a quand même des associations qui sont le plus souvent épargnées, où il y a de temps en temps une espèce de mélange de genre, en tout cas une complaisance à peine cachée, et le point commun, c'est que c'est toutes des associations qui sont de gauche. C'est quand même assez fascinant. En tout cas, c'est le point général qu'on a tous relevé dans l'étude de cette centaine d'associations et dont la cinquantaine clairement pose question.
Était retenu, oui.
C'est assez fascinant.
Oui. Alors, parmi les critères qu'on a sélectionnés, se pose aussi la question du cercle de bénéficiaires. Alors ça, je ne sais pas si Pierre Gentillet peut nous éclairer là-dessus, mais pour être d'intérêt général, on ne peut pas être au service d'un tout petit groupe. Encore une fois, je reprends un exemple, mais...
Alors, c'est le critère le plus... vous avez compris qu'il y a une marge d'interprétation dans ces critères. Et c'est à l'administration fiscale et à la jurisprudence de délimiter un peu ces marges. Effectivement, pour être d'intérêt général, il y a plusieurs critères, et notamment le fait que l'association, dans ses activités, doit s'adresser au plus grand nombre, potentiellement. Parce que vous avez des associations qui touchent que 10-20 personnes. Donc ce serait compliqué de dire ce qui est un grand nombre et ce qui est un petit nombre. Toutefois, lorsqu'il y a une restriction sur des critères très subjectifs, je vous prends un exemple classique d'une association qui n'est pas d'intérêt général parce que sa gestion s'adresse à un cercle, ses activités s'adressent à un cercle restreint de personnes. Ce sont les associations dites d'anciens combattants ou les associations d'anciens élèves. Puisque par définition, ils s'adressent à une catégorie de personnes limitée et où les nouveaux adhérents, tant dans les activités que sur le fonctionnement de la structure, sont particulièrement restreints. Vous voyez, ça, c'est le cas classique, effectivement, d'une association dont les activités sont limitées à un groupe restreint de personnes. À l'inverse, une association qui a une activité... dont elle communique sur les activités, qui fait des conférences ouvertes, etc., etc., qui profite au plus grand nombre, c'est une association qui remplit le critère. Voilà. Mais c'est un critère, effectivement, parmi les 3-4 critères pour être d'intérêt général, c'est un des critères qui est le plus sujet à interprétation. Ce n'est pas celui qui donne le plus qui est le plus, comment dirais-je, qui provoque le plus de contentieux, si vous voulez, devant l'administration fiscale. C'est vraiment le fait d'être une association à caractère soit culturel, scientifique, sportif, éducatif, environnemental, etc.
Arthur de Vatrigan.
Donc si je comprends bien, est éligible à l'intérêt général ou au mécénat des associations qui ne se déclarent pas au profit d'un cercle de personnes restreint. Par exemple, si je prends des associations qui affirment défendre exclusivement et uniquement des personnes racisées, de couleur noire par exemple,
oui.
Là c'est-à-dire qu'on est dans un cercle restreint de personnes affichées, revendiquées, et donc pas d'intérêt général.
Oui. Alors oui, c'est tout à fait possible. Il y a une exception à cela, je la précise, même si, enfin, là, ce n'est pas sur des questions raciales, c'est sur des questions de genre, puisqu'il y a quelques années, je crois, il y a un ou deux ans, le législateur a fait entrer dans le Code général des impôts le fait que les associations étaient d'intérêt général lorsqu'elles contribuaient à l'égalité homme-femme. Donc vous voyez, par exemple, des associations qui auraient pour but de bénéficier, faire bénéficier certaines femmes en, je ne sais pas moi, en ayant des actions qui permettent de favoriser l'égalité des salaires ou l'égalité d'accès aux emplois, ce que vous voulez, ça s'adresserait certes qu'à une catégorie particulière de personnes, mais comme c'est spécifiquement visé, alors là c'est bon. Mais pour ce que vous avez dit, alors là c'est très juste. Une association par exemple communautaire au hasard, une association communautaire je sais pas moi, des habitants du Tonkin ou de je ne sais quel pays du monde ou je ne sais quelle tribu, qui aurait pour but effectivement exclusif de servir effectivement leurs intérêts. Alors là, ce serait embêtant si c'est vraiment restreint, et ici en plus, si vous citez effectivement un critère racial. Attention pour autant, vous voyez, je tempère, c'est ça que ce critère il se manie. Une association qui s'adresse, je ne sais pas moi, à l'association sportive auvergnate, certes, ce n'est que l'Auvergne, mais c'est tout de même assez important, vous voyez. Donc il y a une marge d'interprétation. Mais dans l'exemple que vous avez cité, oui, là, je pense qu'on peut plaider effectivement le fait que c'est un caractère restreint ici.
On donnera donc rendez-vous mercredi pour quelques-unes de ces associations qui, en plus de viser uniquement un cercle restreint, cumulent pas mal de casseroles en termes politiques, de comptes, déclarations. Ça va être assez intéressant, notamment une particulièrement présente et active, et qui emmerde tout le monde.
Alors, Pierre Gentil, je rebondis justement sur la question des déclarations. Alors, d'abord, petite parenthèse pour poursuivre sur le sujet ouvert par Arthur de Vatrigan. On voit par exemple le CRAN, le conseil donc représentatif des associations noires.
Il vient de gâcher ce qui va se
dire. Ah, pardon.
Je pensais à celui-là, moi aussi. Ah, bon,
le CRAN fait partie, vous avez raison.
Je ne l'ai pas fait exprès. Mais
bon, c'est auto-outé, comme on dit en Auvergne.
Mais parce que pour le coup, ça concerne quand même un nombre assez restreint de personnes. C'est pas...
Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont la peau noire.
Imaginons qu'on fasse une association des Blancs de France, je suis certain qu'on n'aurait pas le rescrit fiscal.
Ah, je pense que vous faites la une de Libération.
Oui, oui pense, mais ça va.
Je pense qu'effectivement, encore une fois, moi je ne suis pas magistrat, je ne suis pas du côté de l'administration fiscale, mais...
Parce que c'est clairement communautaire, c'est-à-dire ça segmente la société, non ?
Il y a un sujet. Oui. Là, on peut se dire effectivement qu'il y a un sujet. Là, effectivement, il y a une restriction. Le simple fait que les personnes ici, par exemple une association réservée aux Noirs, si on disait que seules peuvent adhérer les personnes blanches, les personnes de couleur noire, ouais, et que ça ne bénéficie que aux personnes de couleur noire, oui, là effectivement, je pense que sans aucun doute, on serait sur une association au cercle restreint de personnes, et donc qui n'est pas d'intérêt général et qui ne peut pas émettre de reçus fiscaux. Oui.
Alors, parmi les autres associations qu'on a ciblées et étudiées, on a vu, donc certaines respectent le fait de profiter à l'intérêt général, remplissent une partie des conditions d'intérêt général, et donc il n'y a évidemment rien à redire. En revanche, il y a la question des comptes ensuite, c'est-à-dire c'est la transparence des comptes ou la gestion des intéressés. On a vu un certain nombre d'associations notamment qui ne donnent pas leurs comptes alors que normalement, il y a des critères, donc il y a un plancher en deçà duquel on a le droit de ne pas déclarer ses comptes, mais ensuite, une fois qu'on a franchi ce seuil, on a l'obligation de déclarer les comptes. Alors, est-ce que là aussi, Pierre Gentil, vous voulez bien nous éclairer sur la question des montants que l'on peut garder secret, parce que littéralement, c'est cela, et des montants qu'on est obligé de déclarer quand on est une association qui se revendique d'intérêt général, sachant que, par exemple, Radio Courtoisie publie ses comptes tous les ans, et le fait sous la supervision d'un commissaire aux comptes indépendant qui est là pour dire bah, vous êtes dans les clous ou pas dans les clous.
Alors, en l'occurrence...
Et on n'a pas le choix, et c'est présenté. Quoi.
Alors, en l'occurrence, une association d'intérêt général a deux obligations, voire deux obligations. La première obligation, c'est chaque année de déclarer le nombre total de reçus fiscaux et le montant global des dons reçus ouvrant droit à avantage fiscal, premièrement. Deuxièmement, si ces associations émettent des reçus fiscaux pour plus de 153 000 euros de dons par an, alors, effectivement, elles doivent communiquer, elles doivent publier leurs comptes au journal officiel. Effectivement, il y a cette obligation-là de publication, sous peine d'une amende de 9 000 euros.
D'accord. Donc là, bah pareil, il y a quand même un certain nombre d'associations qui ne diffusent pas leurs comptes. Alors, on a...
J'avais une question.
Oui, Arthur de Trigan.
Est-ce que vous parlez des maîtres gentiers, des rescrits? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Parce qu'on ne maîtrise pas forcément tout le langage juridique.
Vous avez posé la question. Alors, encore une fois, c'est vraiment un sujet technique, mais c'est très important. Le rescrit fiscal, c'est... une position de l'administration fiscale. C'est-à-dire qu'admettons, vous, Arthur de Vatrigan, vous avez une association et vous vous interrogez sur la capacité d'émettre des reçus fiscaux pour vos donateurs. Soit vous allez voir un avocat, un professionnel du droit, qui va faire une consultation pour vérifier que vous êtes d'intérêt général, soit vous allez voir l'administration fiscale et vous allez solliciter un rescrit. C'est-à-dire que l'administration fiscale va être obligée de se positionner, elle va étudier votre dossier, vous allez lui envoyer des statuts, un petit descriptif, etc., et de se positionner sur votre association. Si l'administration fiscale vous renvoie un rescrit négatif, vous ne pouvez pas émettre de reçus fiscaux. Si vous le faites, vous avez une amende immédiatement. Si le rescrit fiscal est positif, alors vous pouvez émettre des reçus fiscaux, et si, parce que l'administration fiscale, elle fait son bilan, elle fait son analyse, son rescrit, sur la base d'une photographie à un instant T. Vous voyez, votre association, elle peut, dans un an ou dans deux ans, complètement changer. Et c'est là où on peut voir une fraude. C'est pour ça que le rescrit, il ne vaut que sur ce qui est indiqué et sur la façon dont vous avez présenté les activités. Si quelques années plus tard, quelques temps après ce rescrit, l'administration fiscale vient à vous contrôler, si vous êtes toujours dans les clous du rescrit, en principe, elle ne peut même pas remettre en cause votre statut, parce qu'elle s'aligne sur la position, mais en admettant qu'elle veuille remettre en cause la position de l'administration qui vous a fait ce rescrit, elle ne peut pas vous infliger d'amende. Et ça, c'est très fort. Elle ne peut pas vous infliger d'amende. Donc le rescrit, c'est à la fois une autorisation d'émettre des reçus fiscaux, et c'est une couverture pour éviter l'amende.
Donc, si je comprends bien, le rescrit, c'est l'administration fiscale qui le délivre.
Oui, et qui le délivre, que peut... un des services de l'administration fiscale.
Que peut-on penser d'une association qui envoie elle-même le rescrit au fisc?
C'est impossible.
Ben, c'est impossible. Alors, vers quoi dit vous découvrez une association qui est tellement sûre d'elle qu'elle nous a expliqué, noir sur blanc, que c'est elle qui envoyait le rescrit au fisc?
Alors, quand elle dit qu'elle envoie le rescrit, c'est peut-être elle... Je me permets d'intervenir. Peut-être, je lirai avec attention l'incorrect mercredi, mais peut-être que ce qu'elle a voulu dire, je le souhaite entre guillemets pour elle, c'est qu'elle a fait la demande. Parce qu'on ne peut pas rédiger soi-même. Enfin, on peut rédiger son propre rescrit et signer pour l'administration fiscale, c'est compliqué. En revanche, elle peut aller voir un professionnel du droit et effectivement avoir une attestation qui présume, entre guillemets, la bonne foi. Mais ce ne sera jamais aussi solide, effectivement, qu'un rescrit de l'administration fiscale française. Voilà.
Je n'ai pas la question, mais en tout cas, c'était très... l'association était vraiment sûre d'elle et répondait très précisément que c'était elle qui avait envoyé...
Je serais curieux de savoir exactement, Arthur de Vatrigan, je lirai mercredi, exactement ce qu'elle vous a répondu.
Ah oui, bien sûr, on va rapporter les propos tels quels...
Ça sera sur les réseaux sociaux de l'incorrect.
On va faire un article.
Très bien. Bon, écoutez,
toujours intéressant de savoir. En plus, une association qui est très active cette semaine.
Ah.
Qui est au cœur du débat.
Cachotier.
Teasing.
C'est un métier. Hein.
Bah oui.
Ça peut faire le top. Hein.
Oh mon Dieu.
C'est l'autre métier des journalopes, comme on dit.
Alors. Sans transition. Hein,
je... oui, j'ai.
La radio
du patriarcat. Merci, merci.
Je me tourne vers Julie Solveig.
C'est gentil pour elle.
Enfin. Julie, vous avez aussi travaillé sur Reporter, qui est un média associatif écologiste
le
et militant.
Vert, oui.
Voilà.
Exactement.
Et là aussi, il y a deux ou trois petites choses un peu intéressantes. Est-ce que vous pourriez nous en parler?
Alors rapidement, donc, déjà, il faut le dire, dès le départ, tout ce qui est compte, c'est déposé. Là-dessus, ils sont carrés. La première chose intéressante, c'est que le modèle de Reporter, en fait, fonctionne sur une communication militante, sur la précarité de la presse indépendante, beaucoup d'appels aux dons. Le président Hervé Kempf se définit lui-même comme objecteur de croissance, il fustige le capitalisme, les riches, bref, l'oligarchie, etc. Mmh. Et en fait, en fouillant les comptes, on se rend compte que les comptes montrent une toute autre réalité. Ils sont dans une situation financière extrêmement confortable puisqu'ils ont déjà plus de 3 millions d'euros de liquidités de placement. Donc c'est un excédent très important. Ça, c'était la première petite chose. Oui. La deuxième, pour être plus dans le sujet, c'est, on le disait, il y a la dimension parfaitement juridique que moi je ne maîtrise pas, ça c'est Pierre, mais il y a aussi la question du bien fondé. Et Reporter défiscalise. Or, on se rend compte que, effectivement, sous couvert d'intérêt général, on peut supputer qu'il y a une action politique. Je vais vous donner trois exemples très concrets. Le premier, c'est Reporter a été soutenu, on l'apprend d'ailleurs dans Street Press, je crois, par Olivier Legrain, le multimillionnaire d'extrême gauche, qui ouvertement veut peser sur la présidentielle 2027 et pro-immigration. Il voulait ouvrir des maisons d'hospitalité pour les migrants. Donc, cet homme-là a soutenu Reporter. La deuxième chose, c'est leur ligne édito qui est très marquée. J'ai quelques exemples. Un des exemples, c'est par exemple, en novembre 2025, Reporter a proposé un plan en 9 points pour réduire la proportion de blancs dans les milieux écolos.
Des gens blancs.
Voilà.
Ça, c'est pas si c'est
non racisé.
Est-ce que c'est tout à fait d'intérêt général, ça, de vouloir exclure toute une catégorie de la population? C'est intéressant.
Oui, complètement. Le 19 juin 2024, le média a diffusé une tribune pour un front commun des médias contre l'extrême droite. En février 2022, Reporter a signé et diffusé une tribune pour stopper Bolloré, etc., etc. Il y a beaucoup d'exemples en réalité comme ça. Je vais pas vous faire une liste là, Prévert. L'autre chose qui est intéressante, c'est que le discours officiel de Reporter, c'est on ne touche des dons que de nos donateurs. Et on trouve, en cherchant sur Internet, donc c'est des documents qui ne sont pas indexés par Google, mais on les trouve quand même, qu'en réalité, Reporter a touché de l'argent public, donc de la mairie, mais aussi de députés et de sénateurs de gauche, en fait, qui ont puisé dans leurs réserves parlementaires pour donner des sous à Reporter. Donc on peut effectivement se poser la question du bien fondé pour Reporter de défiscaliser, dans la mesure où on se rend quand même compte qu'il y a une ligne politique qui est défendue.
Alors il y a une ligne politique qui me semble effectivement échapper à l'intérêt général, et après il y a aussi une gestion, parce que, alors ça c'est pareil, je ne fais que poser des questions et je n'accuse pas, parce que je ne connais pas les réponses, peut-être que Maître Gentillet pourra nous éclairer, mais le monsieur Kempf, là, donc Hervé Kempf, se dit objecteur de croissance, mais en tout cas j'ai l'impression que la sienne il y veille, bon, l'association est quand même gérée en partie avec son épouse, qui a l'air de... Le conseil d'administration a l'air d'être composé de 6 personnes, dont lui et son épouse, et parmi les principaux... parmi les personnes salariées, en tout cas, ou les collaborateurs rémunérés, se trouve une certaine Juliette Kempf, qui apparemment est...
Alors, quand on regarde sur Généanet, on a un Hervé Kempf marié avec une Véronique, dont la fille est Juliette. Donc, il y a quelques indices concordants. En revanche, c'est pas indiqué sur le site, donc...
D'accord. Bon, on peut poser la question de savoir s'ils travaillent en famille.
C'est
ça. Pierre Gentillet, est-ce que le fait de diriger une association avec sa femme et d'y faire travailler sa fille remet en question la gestion désintéressée ou pas?
Non, ça ne remet pas en question la gestion désintéressée.
Alors qu'il continue, c'est bien.
Pour autant, dans la mesure où, alors je ne connais pas encore une fois, et je lirai avec attention, là vous me dites effectivement que c'est l'enfant qui est salarié, c'est ça?
Alors je précise juste que les derniers articles, il me semble, datent de 2018, hein. Je ne sais pas si elle y pige ou travaille encore.
En l'occurrence, dès l'instant qu'un des dirigeants est rémunéré, effectivement, il y a des règles à respecter, et il y a notamment effectivement le fait par exemple de se déporter au moment du vote. Ça paraît effectivement tout à fait évident. C'est une règle qui existe aussi, me semble-t-il, aussi dans des sociétés. Donc oui, c'est tout à fait possible d'employer des gens de sa famille dans une association, ça c'est pas un problème, il faut juste respecter les règles. Et puis aussi, il y a des critères en matière de montant pour la rémunération des dirigeants, si c'était le cas ici, bien sûr.
D'accord. Alors, reporter, donc je pense qu'on a fini. On va revenir, on passe un tout petit morceau, un petit intermède musical, et on revient pour parler de l'Institut La Boétie avec Rodolphe Carte.